Bonsoir. Merci d'être venu à cette conférence autour du café. C'est Benoît Michéa, qui est directeur de la formation au Café Malongo, qui va donc vous faire cette conférence et vous parler de tas de choses passionnantes. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Merci. Merci, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, oui ? Ouais. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, déjà, je tenais à remercier Madame Zanos ainsi que toute l'équipe du Centre Pompidou de la bibliothèque qui ont été vraiment très sympathiques, chaleureux et accueillants. Donc, merci à eux. Le thème de cette petite rencontre n'arrive pas par hasard, puisque vous savez tous, puisque vous êtes intéressés au café, que le monde du café est en pleine évolution, c'est même peu dire, puisqu'il est carrément en révolution et même en explosion. On voit apparaître ça et là des établissements spécialisés dans le café. On voit apparaître une myriade de coffee shops. Il y a environ un établissement par mois dédié au café qui s'ouvre en France, pas seulement à Paris. On en voit à Montpellier, on en voit à Bordeaux, on en voit à Lyon. Il y a un véritable phénomène d'engouement autour du café. Et il paraissait intéressant de faire un petit peu le point sur ce qui motive les gens. Et ce qui motive l'attrait des gens pour le café. Donc, et de voir un petit peu les nouvelles formes que peuvent prendre cet engouement autour du café. Et notamment, on va s'intéresser ce soir à deux aspects principaux. C'est l'émergence de la notion des terroirs caféiers, des origines, des crus. Alors, on les appelle différemment. Et puis de voir aussi l'émergence en même temps de nouvelles méthodes de préparation. Les choses bougent, changent et il y a des méthodes de préparation qui nous viennent de l'étranger notamment, ou des réinventions d'anciennes méthodes de préparation qu'on remet au goût du jour, qu'on rend plus précises. Et ça, c'est ce qui va faire la nouvelle consommation de café. Alors, je voudrais faire une petite précision avant de commencer. Je sais que parmi vous, il y a des spécialistes et voire des professionnels du café. Alors, je voudrais pas générer de frustration chez eux. On a un peu conçu cette conférence comme quelque chose de grand public. Donc, c'est une initiation aux nouvelles tendances du café. Donc, j'espère, vous m'excuserez par avance, j'espère qu'ils seront pas trop déçus du fait qu'on ne rentrera pas forcément trop dans le détail, mais qu'on restera avec une vision globale et généraliste du propos. Cela dit, on va se réserver quand même un instant de questions-réponses à la fin, donc d'échange, on va prévoir 5 à 10 minutes d'échange au cours desquels on pourra évoquer les sujets peut-être un peu plus en profondeur si vous le souhaitez. Mais j'ai souhaité volontairement rester assez généraliste dans le propos de manière à ce que le plus large public ne soit pas perdu par nos discussions un petit peu de spécialistes. Voilà. Cela dit, n'hésitez pas à m'arrêter si parfois j'étais pas clair ou si parfois j'allais trop vite ou trop lentement sur certains sujets ou si vous souhaitez des précisions. Vous êtes assez nombreux, donc on va peut-être pas pouvoir échanger beaucoup. Mais néanmoins, n'hésitez pas si vous souhaitez, des précisions sur un point ou un autre. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Voilà, donc les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura deux thèmes. Le premier, les terroirs caféiers. Alors on va revenir sur la notion de terroir. Les terroirs caféiers, ils sont comparables aux terroirs en termes, si on parle de vin, ils sont comparables aux terroirs de fromage, ils sont comparables aux terroirs de viande et de tout ce qui peut, de tous les produits agricoles. C'est-à-dire qu'ils sont composés de facteurs naturels et de facteurs humains. Donc on va décomposer un petit peu, développer un peu ces deux thèmes, et on va voir qu'est-ce qui, dans les facteurs naturels et les facteurs humains, qu'est-ce qui fait que des cafés de terroirs vont être différents les uns des autres. Qu'est-ce qui fait que on va avoir une typicité de goût liée à des régions et des provenances géographiques. Et puis, on va parler de nouvelles méthodes de préparation. Alors, ces méthodes de préparation, vous les connaissez peut-être déjà de longue date, puisque la nouvelle vague de consommation du café a tendance à réinventer des modes anciens, à les remettre au goût du jour, comme je disais, à les préciser, à les rendre plus actuels et à les lier justement au terroir, à ces notions de terroir caféier. Donc maintenant, non seulement on ne va plus considérer le café comme un petit noir, c'est-à-dire quelque chose de banal, un produit unique, un mélange, on va dire, standard, on va aller vers la typicité de goût, mais on va la relier aussi avec des méthodes de préparation. Et on va voir que certaines méthodes de préparation vont aller mieux avec certains crus de café, certaines autres méthodes mieux avec d'autres crus, et que là où on peut vraiment commencer à s'amuser, là où on peut vraiment commencer à parler de produits de produits de qualité, de produits d'exception, de produits de la gastronomie, c'est quand on va effectivement relier un cru avec une méthode de préparation et qu'on va jouer avec des instants et des méthodes de préparation différentes du café. Alors, en introduction, j'avais prévu de vous parler un petit peu de l'historique du café pour essayer de comprendre pourquoi ces nouvelles tendances arrivent sur le marché. Alors, le café, on va remonter, vous allez voir, on va remonter loin, mais ça va être rapide. Le café, dans l'après-guerre, c'est un produit de première nécessité. C'est-à-dire qu'on vient d'une période de pénurie. Pendant la guerre, il n'y avait pas de café. On était obligé de boire de la chicorée. Alors, on ne s'en rappelle plus aujourd'hui, mais c'était le cas. Donc, l'objectif était de mettre sur le marché une quantité du café en quantité et de préférence avec des prix contenus. Il se trouve qu'en France, on a une culture du café qui est marquée par l'implantation de nos ex-colonies. Donc, il y avait beaucoup de Robusta dans les colonies d'Afrique de l'Est, notamment. Donc, on a consommé beaucoup de café d'assez médiocre qualité et principalement des Robusta qui venaient d'Afrique. Ça, c'était l'après-guerre. Alors après est venu le temps de l'abondance, il y avait de tout en profusion et du café aussi. Donc les torréfacteurs ont commencé à se dire maintenant il faut qu'on arrive à pousser notre café et qu'on arrive à le commercialiser. Donc c'est l'avènement du marketing et dans les années 80, on a fait du café un produit sensuel pour essayer de le vendre. Un produit sensuel. Donc, c'était. Il y a plusieurs marques qui ont été sur ce créneau-là. Le café, c'est synonyme soit de convivialité, soit carrément d'un monde de désir, de sens. Alors, le produit était complètement effacé. C'est-à-dire que le produit n'existait pas. C'était un produit standard, de goût. On ne parlait pas du goût. On ne parlait pas de s'il était fort, s'il était doux, ça, on s'en moquait. C'était en fait un porte-drapeau de notions. Alors, il y avait du sens, il y avait des. Tout sauf du goût. Alors, ensuite, dans les années 2000, on a vu l'émergence du café comme un produit de luxe. Mais alors, le café était toujours. Alors que c'est un produit agricole, alors qu'on verra plus tard un peu ce qui fait toute sa spécificité, le café, en produit de luxe, notamment avec l'émergence des produits à dosette, qu'on a vu arriver dans les années 2000, le café, c'était toujours pas une origine, c'était toujours pas un terroir, ça a été des classifications par couleur, ça a été des choses comme ça. Mais encore une fois, le produit en tant que produit agricole de la gastronomie s'effaçait complètement derrière la puissance du marketing. Donc là, on en était là jusqu'à très récemment. En France, les gens qui parlaient des terroirs caféiers, les gens qui parlaient des crus d'origine, les gens qui parlaient des méthodes de préparation il y a ne serait-ce que 10 ans, prêchaient un petit peu dans le désert. Et puis, voilà, ce qu'on voit arriver maintenant, c'est que le café, sous l'impulsion d'une jeune génération, mais dont on verra tout de suite que c'est pas une génération spontanée, le café a commencé à être travaillé comme un produit de terroir. ah là, ça devenait intéressant. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler non plus de café, c'est-à-dire en termes d'assemblage, en termes de goût et de positionnement marketing, mais on a commencé à parler de ses origines, de ses typicités. Et là, on ouvre la porte d'un monde absolument inconnu, puisqu'on va découvrir que certains crus sont plus marqués par l'acidité, certains crus sont marqués plus par l'amertume, certains crus ont du corps, certains autres ne l'ont pas. Il y a du café qui vient d'Asie, il y a du café qui vient d'Amérique centrale. Parmi le café qui vient d'Amérique centrale, il y a du café qui vient du Guatemala, du Mexique, de Panama, qui n'ont pas le même goût. Parmi les cafés du Mexique, il y a des cafés d'une région ou d'une autre qui n'ont pas le même goût. Et parmi même ces régions, il y a des fermes, des plantations. Et que parmi ces plantations, il y a même des parcelles. Et que chaque parcelle de chaque ferme, de chaque plantation, de chaque région, de chaque pays, va avoir une identité différente. Donc il y a des gens qui vont commencer à s'amuser avec cette notion d'identité et qui vont commencer à s'amuser avec cette notion de goût. Et puis alors, donc ça c'est le côté produit de terroir, mais il va y avoir l'émergence de ce qu'on appelle une race nouvelle de personnes qu'on appelle les baristas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un barista? Vous avez peut-être tous entendu parler de ce terme-là, de barista. Un barista, c'est un spécialiste de la préparation du café, enfin un spécialiste du café déjà, quelqu'un qui va connaître les crus et qui va connaître parfaitement toutes les méthodes de préparation et qui va travailler, creuser les techniques de préparation du café pour obtenir le meilleur en s'adaptant à chaque cru. Et puis il va même se mettre maintenant de plus en plus à torréfier lui-même son café. Donc cette émergence fait que d'un produit qui était conçu comme un produit unique, mon produit sensuel, mon produit de luxe, on va arriver vers un produit divers, un produit qui va devenir très riche, mais aussi très complexe. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel il n'est pas forcément facile de se repérer. Donc d'où vient déjà la notion de terroir? Et on parlait de pays producteurs. Il y a aujourd'hui, dans le monde, plus de 70 pays producteurs de café. Comme vous pouvez voir, il y en a partout à travers le monde, dans ce qu'on appelle la Coffee Belt, qui est un nom anglais, c'est-à-dire la ceinture intertropicale. Alors, originellement, le café, il est originaire d'où ? Ben, d'Afrique. L'Arabica va être plutôt originaire d'Abyssinie, d'Éthiopie, cultivée au Yémen. Et puis le Robusta va être plutôt originaire de l'Afrique de l'Est. Et c'est l'homme qui en a planté partout à travers le monde. Donc on va voir que à travers cette plantation, il va, à travers notamment la colonisation, on va avoir une dispersion du café. Enfin, le café va véritablement conquérir le monde pour aujourd'hui être planté partout où il peut pousser. Alors où il peut pousser, on a dit en zone tropicale. L'Arabica, il va pousser en altitude à partir d'environ de 1000 mètres d'altitude, et le Robusta va pousser plus en plaine. Mais il va pousser exactement dans les zones partout, dans tous les pays, à l'exception évidemment des zones désertiques. Alors les principaux pays producteurs, je les cite parce que c'est assez intéressant pour comprendre un petit peu la diversité du monde du café. Le premier pays producteur au monde, c'est le Brésil. 2 millions de tonnes. Le deuxième pays producteur, alors celui-là, on ne l'attendait pas, c'est le Vietnam. Alors, pourquoi le Vietnam est le deuxième pays producteur et surtout, pourquoi il n'est pas connu ? Ben, il n'est pas connu parce qu'il fait des cafés d'assez mauvaise qualité. Et donc, c'est des cafés dont les torréfacteurs, quand ils en mettent dans leur mélange, bah, ils ne se vantent pas d'en avoir. C'est la raison pour laquelle l'Éthiopie, le Brésil, la Colombie, le Panama et le Guatemala sont très connus, mais le Vietnam, pas trop. Le troisième, c'est l'Indonésie, à peu près pour la même raison. Et en quatrième position seulement, on commence à voir un pays dont le nom commence à être synonyme de café, la Colombie. Alors là, je vous précise, c'est les chiffres de 2012. Et le cinquième, c'est l'Inde. Alors, on voit sur ces chiffres-là que y a deux remarques à faire. La première, c'est la prédominance du Brésil. Le Brésil, c'est 3 millions de tonnes. C'est quasiment autant que les quatre suivants. Ce qui veut dire qu'il y a une prédominance du Brésil sur le marché mondial. Le Brésil, c'est des cafés. En général, la plupart de la production du Brésil, c'est de la production qui est plutôt industrielle, qui est plutôt une production industrielle, même s'il y a des plantations intéressantes au Brésil. Et les autres, ben, en Indonésie, il y a des très beaux cafés, mais les cafés qui font le plus de chiffres sont des cafés de mauvaise qualité. Donc on comprend que, malheureusement, aujourd'hui, une grosse partie de la production mondiale de café sont des cafés plutôt de basse qualité. Donc les terroirs, les crus qu'on va aller chercher, ben, vous ne les trouverez pas forcément dans cette liste-là de pays. On va parler du Guatemala, on va parler du Panama, on va parler d'Éthiopie, du Burundi, du Kenya, qui sont plutôt des productions de faible quantité. Alors, ça nous amène à parler de la notion de terroir. Alors, des terroirs, on en entend beaucoup parler, un peu, on met ce mot à toutes les sauces, mais il a une définition, cette notion de terroir, elle a une définition très précise. Alors, un terroir, c'est des facteurs naturels. Dans le cas du café, on a l'espèce, la variété botanique, l'altitude, le sol, la température auquel pousse le produit, l'exposition, l'ombrage et l'eau. Alors, je vais volontairement rapidement, parce qu'on va s'arrêter sur chacun de ces critères, pour vous préciser un petit peu quelle influence ils vont pouvoir avoir sur le goût du café. Les facteurs humains, maintenant, c'est la manière dont le café va être récolté, la manière dont il va être extrait, c'est-à-dire c'est les traitements après récolte, c'est la manière dont... alors pour ceux pour qui c'est pas très clair, le café pousse sur un arbre qui s'appelle le caféier, et le caféier produit des cerises. À l'intérieur de ces cerises, vous avez des graines. Ces graines, c'est le café vert. Et tout le jeu de la plantation, du planteur, va être, une fois qu'il a réussi à bien faire pousser son café et qu'il l'aura récolté, ben, comment on va retirer ces petites graines de la cerise? Ça, il y a plusieurs techniques, on va le voir. Ensuite, tout est séché et c'est trié. Donc, à chacune de ces étapes, vous allez avoir des paramètres qui sont différents. La combinaison de ces paramètres vont faire ce qu'on appelle le terroir. C'est donc la définition exacte du mot terroir, c'est l'interaction entre facteurs naturels et les savoir-faire humains. C'est-à-dire comment mon produit naturellement va pousser et comment il va être derrière traité par il y a différentes techniques. Et ça, on peut faire le parallèle, on fait souvent le parallèle là-dessus avec le vin, parce que c'est exactement la même chose. Entre le terrain, le sol, le climat, les espèces, alors dans le vin on appelle ça les cépages, et puis derrière la vinification, on va obtenir des typicités de goût totalement différentes avec un même produit qui est le vin. Alors vous voyez, là on commence à vraiment toucher du doigt une réalité, c'est quand j'ai mon paquet noir avec un produit unique qui dit, voilà, dans le meilleur des cas, qui me donne la précision que c'est 100% d'Arabica, derrière tout ça, on fait l'économie des explications sur tous ces éléments-là. Et Dieu sait qu'il y aurait à dire. Alors, le premier facteur naturel, c'est l'espèce botanique. Alors, l'espèce botanique, pour faire le parallèle avec le vin, c'est ce qu'on va appeler, enfin, on va dire que c'est plutôt le mélange de variétés et d'espèces, c'est le cépage. C'est-à-dire, ça va être le type d'arbuste, la manière dont il pousse. Alors, il y en a deux principaux qui sont bien connus, qui sont l'arabica et le canéphora qu'on désigne, pour être plus rapide, par le terme de robusta. Alors, ces deux espèces sont bien différentes et bien distinctes. Elles sont donc l'une est originaire de l'Éthiopie, comme je vous disais tout à l'heure, et l'autre originaire de l'Afrique de l'Est. À l'état d'arbuste, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que ici, vous avez un robusta, et ici, vous avez de l'arabica. Alors, la différence entre les deux, elle va être assez, assez grande. Ça vient de la nature même de l'arbre. L'arabica, lui, va être plus fragile. C'est-à-dire qu'il va être moins résistant aux maladies. Il va avoir besoin de plus d'eau et il va avoir un rendement bien plus faible que le robusta. Le robusta, lui, comme son nom l'indique, son nom vient du fait qu'il pousse bien, même dans des conditions un petit peu difficiles. Il craint un peu le soleil, mais même dans des conditions un peu difficiles, il va pousser très correctement et donner des productions très intéressantes. L'arabica, il va pousser plutôt en haute altitude, donc on va dire à partir de 1000 mètres. Alors, il y a des exceptions. Il y a certains terroirs, on le verra peut-être par la suite, qui arrivent à pousser quand il y a des microclimats un peu spécifiques qui arrivent à pousser en dessous. Mais en général, c'est à partir de 1000 mètres et jusqu'à 2100 mètres. Le robusta, lui, il pousse en plaine. Donc, on voit que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile à faire pousser un produit qui pousse en plaine qu'un produit qui pousse en haute montagne. C'est-à-dire que concrètement, en plaine, le transport va être facilité. La plaine, par définition, c'est plat. Donc, on va pouvoir faire passer des machines. Et alors que généralement, l'arabica, va lui pousser en haut des montagnes. Donc, il va être compliqué à cultiver. Les parcelles vont être difficiles à atteindre. Une fois qu'on l'a récolté, le transport va être plus compliqué puisqu'on parle de pays producteurs, donc dans lesquels les routes ne sont pas forcément idéales. On a beaucoup de pistes. Et puis, il aura donc une rentabilité et un rendement beaucoup bien moindre. Donc, le taux de caféine entre l'arabica et le robusta va du simple au double. C'est-à-dire que l'arabica est deux fois moins chargé en caféine que le robusta. Et par contre, on aura des notes, des caractéristiques gustatives vraiment différentes. C'est-à-dire que le robusta va être tonique, il va être plus fort, il va être plus puissant et il va avoir tendance à être plutôt amer. L'arabica, lui, va être très aromatique, il va être doux, parfumé et il va avoir une tendance plutôt acide. Alors, cette histoire d'amertume et d'acidité, vous allez voir qu'on navigue, quand on parle de café, on navigue sans cesse entre ces deux notions, amertume, acidité. En bouche, vous aurez toujours un équilibre, une balance qui va se faire entre cette amertume et cette acidité. Mais on y reviendra toujours parce que en termes de torréfaction, ce sera pareil. Quand on parlera, on n'en parlera pas ce soir, mais quand on parle torréfaction, quelque chose de très torréfié va être amer, quelque chose de peu torréfié va être acide. Et quand on parle souvent d'espèces ou de crues, ce qui est amer a tendance à ne pas être acide et inversement. Et puis alors, quelque chose une donnée intéressante, c'est évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, on comprend qu'il est beaucoup moins cher de faire pousser du robusta que de faire pousser de l'arabica. Ça a besoin de moins de traitement, ça se transporte mieux, ça a meilleur rendement, donc c'est moins cher. On est à $2000 la tonne contre $3000. Alors on a fait des conversions contre $3000 la tonne. Donc on est à un rapport de 1 à 1,5 en termes de coût. Alors, ça, c'était pour l'espèce. À l'intérieur de chaque espèce, il y a vraiment là ce qui va pouvoir être apparenté à des cépages. Ça va être la variété botanique. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail. À l'origine, à l'état naturel, il y a deux variétés botaniques principales dans l'arabica. que sont le Bourbon et le Typica. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails forcément. Mais alors, quand je dis à l'origine, c'est autour au 18e siècle, hein, au 19e siècle. Il y a ces deux variétés botaniques sont les variétés principales. Le Typica est plutôt au Brésil au départ. Et le Bourbon a été, justement, vient de l'île Bourbon, c'est-à-dire l'île de la Réunion. Donc, ces deux variétés botaniques de base ont subi des transformations, c'est-à-dire il y a eu des modifications génétiques qui ont donné lieu à un ensemble d'autres variétés botaniques qui, chacune, vont avoir leur spécificité en termes de rendement, en termes de résistance, en termes de préférence climatique. Et alors, certaines sont des variétés qui sont apparues naturellement, comme le Maragogi, par exemple, ou le Catura. Et certaines ont fait l'objet de préférences ou d'hybridation par la main de l'homme. C'est-à-dire que, comme tous les produits agricoles, l'homme a toujours cherché à combiner entre différentes variétés, différentes espèces aussi, dans certains cas, de manière à pouvoir adapter au mieux la variété botanique avec le climat. Donc, il y a des variétés botaniques qui préfèrent un climat très pluvieux, qui vont supporter qu'il y ait un peu moins de soleil, et d'autres, à l'inverse, qui vont se plaire dans des zones à l'inverse où l'eau viendra plus à manquer. Alors, ça, tout ça, comme les cépages du vin, un Sauvignon, ça, c'est pas pareil qu'un Chardonnay. Et de la même manière, un Bourbon, ça va pas avoir le même goût, les mêmes arômes, les mêmes saveurs que un Catura ou qu'un Leroy. Un Moka, pour les gens qui ont la chance d'avoir l'atelier derrière, vous verrez que un Moka, ça ne va pas du tout avoir le même profil aromatique qu'un Bourbon ou qu'un Typica ou qu'un Maragogipe. Et à l'inverse, là encore, c'est un produit agricole, donc le rendement, ça compte. Les rendements vont varier énormément aussi. Un Maragogipe, 3 tonnes par hectare, un Typica, 8 tonnes par hectare, un Catura, 12 tonnes par hectare. Alors, on n'aura pas forcément le même intérêt aromatique, on n'aura pas forcément les mêmes profils de dégustation, mais dans un marché dont on a vu déjà qu'il est dominé par des gros business, c'est très important, ces données-là sont très importantes. Et parfois, elles arrivent à prendre le pas sur les goûts. Alors, juste un mot, un petit détail. On parle beaucoup de Robusta. En fait, l'espèce, c'est le Canephora. Et à l'intérieur, on appelle ça Robusta par un peu par abus de langage. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs espèces, Couillou, Conilon, Niaouli. Tout ça, c'est des variétés dont aucune ne présente vraiment de... Alors, il y a des puristes qui vont me dire qu'il y a certains Robusta lavés qui sont très intéressants aromatiquement. Mais ça reste quand même généralement des cafés qui sont plutôt pauvres d'un point de vue arôme. Alors, dans les facteurs naturels, on a vu aussi l'altitude. Alors là, on va voir que l'altitude va jouer sur le goût du café et sur les arômes du café. Pas sur le goût, excusez-moi, plutôt sur les arômes. C'est-à-dire que si on est en dessous de 1000 mètres, on va avoir quelque chose de très subtil. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand je marque doux, c'est une douceur en termes d'arômes. C'est des arômes qui vont être des arômes légers, des arômes subtils, des arômes fins. Et généralement, peu marqués. Souvent, si on voulait être méchant, on dirait que c'est des cafés un peu plats. De 1000 à 1250 mètres, ces cafés, c'est des arômes. On est plutôt dans des arômes qui sont de type, moelleux. C'est une notion, mais on va être pareil, un petit peu moins subtil, mais quand même quelque chose d'assez léger, d'assez peu marqué. Ensuite, quand on va monter, alors évidemment, ce que je vous donne là, c'est une généralité. C'est quelque chose qui est pas une vérité applicable à tout. On va toujours pouvoir trouver des contre-exemples à ça. C'est vraiment pour schématiser. Mais globalement, quand on va monter à des altitudes intéressantes de 1200 à 1500 mètres à peu près, on va tomber sur des arômes beaucoup plus marqués, beaucoup plus typiques. C'est-à-dire que la maturation va être plus lente, la température va être souvent plus basse, et on aura un développement d'arômes qui va être plus marqué. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail, ce qui crée les arômes, c'est l'alliance des sucres et des protéines dans le grain, et ça, ça va être favorisé par la culture en altitude. On aura une maturation plus lente, et on aura, par contre, un rendement moins élevé en altitude. Plus on monte en altitude, plus le rendement est bas. Et on aura, alors c'est pareil, généralement, on peut constater des arômes, des dominantes de citron, chocolat, noisette. On sentira ça dans le Zimbabwe qu'on goûtera après. Et au-delà de 1500 mètres, alors là, on est sur des grandes intensités aromatiques qui peuvent être fruitées, florales, épices, mais des choses qui sont beaucoup plus marquées en termes de goût. On aura des cafés beaucoup plus goûteux. Là, on commence à voir que des paramètres qui influent sur le goût du café, il y en a un paquet, ils sont très importants. Ils sont vraiment très importants. On n'a pas encore parlé du sol. Alors le sol, comme pour le vin, un sol volcanique, ça ne va pas donner le même résultat qu'un sol schisteux, qu'un sol argileux. Alors, juste un mot sur les sols. On dit souvent que le café ne pousse que sur les sols volcaniques. C'est absolument faux. Le café adore notamment des sols argileux. Pourquoi ? Parce que le café a besoin de beaucoup. Le caféier a besoin de beaucoup d'eau. Et les seuls sols qui ne va pas supporter, c'est les sols qui sont trop drainants, c'est-à-dire des sols sableux, siliceux ou latérites. C'est-à-dire que c'est des sols qui ne vont pas retenir l'eau. Donc le caféier va avoir soif et il va subir des stress hydriques et mourir. Généralement, pH 5-6. Et donc, généralement, on va avoir des profils sur les sols volcaniques, notamment, qui vont être beaucoup plus acides. On va avoir des profils, on va avoir une favorisation, ça va favoriser l'acidité. Alors, le climat, on a parlé température. 18 à 22 degrés, il faut savoir qu'il ne supporte pas les températures en dessous de 5 degrés et au-dessus de 30 degrés. Donc il va avoir besoin d'une température relativement modérée. C'est pour ça que c'est pays tropical, mais en altitude. Exposition 60% du possible. Alors je ne sais pas si ça se dit possible. En fait, c'est 60% du temps d'ensoleillement maximum. C'est-à-dire que voilà, il va avoir besoin, grosso modo, de minimum 60% de lumière du soleil. C'est-à-dire, si la journée fait 12 heures, il aura besoin d'à peu près 7 heures de soleil par jour. La pluviométrie, comme on l'a dit, c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Et alors, là, c'est important, de l'ombrage. Alors, l'ombrage est important. Pourquoi ? Parce que le caféier, s'il subit les rayons directs du soleil et qu'il n'a pas d'ombrage, il va subir certaines maladies. Et ça va nécessiter des traitements. Donc, dans les plantations notamment industrielles, où on a besoin de passer avec des gros enjambeurs, je pense qu'on voit une photo après, les caféiers sont sous le rayon direct du soleil et donc, ils vont tomber malades. Et donc, pour éviter qu'ils tombent malades, qu'est-ce qu'on fait ? On traite. Voilà. Donc ça, c'est la culture sous ombrage est très importante. Alors, il y a autre chose qui est importante dans l'ombrage, c'est que ça pousse sous des avocatiers, sous des bananiers, dans les plantations, dans les fermes qui sont correctes. Et les feuilles des bananiers, des avocatiers, elles tombent. Et en tombant, elles se décomposent et elles vont nourrir le sol. Alors que, effectivement, s'il n'y a pas d'ombrage, on va être obligé de mettre des engrais. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de respecter. Alors, sur toutes les plantations d'origine, toutes les fermes caféières, des cafés de qualité qu'on voit émerger dans le marché aujourd'hui, la plupart, enfin tous d'ailleurs, sont cultivés sous ombrage, sont généralement dans ces conditions idéales. Voilà pour les facteurs naturels. Est-ce que peut-être vous avez des questions à ce stade ? Non ? Ça vous paraît clair ? Alors, les facteurs humains. Oui ? Absolument. Alors, absolument. On a testé un hybride entre les deux espèces qu'on a appelé l'Arabusta. qui est un pied de robusta sur lequel on est allé greffer un plant d'arabica. Alors, c'est censé avoir les propriétés aromatiques de l'arabica et la solidité, la robustesse du robusta. Mais, pardon ? Alors, je pense qu'on a dû faire ça. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je pense que ça doit être... je pense que ça a dû être testé au Brésil, mais il y a eu plusieurs essais. Il n'y a pas aujourd'hui de culture massive d'Arabusta, en tout cas à un stade industriel. Alors, parlons, une fois qu'on a vu ces facteurs naturels donc, qui vont influencer le goût de mon café, on va parler des facteurs humains. Et notamment, le premier, c'est la manière dont il va être récolté. Et là, il y a plusieurs manières aussi de récolter. Alors, sur un rameau de caféier, n'oublions pas qu'on est dans un pays tropical. Donc la saison printemps, été, automne, hiver, on ne connaît pas. Donc la maturation va être lente, elle va durer 9 mois environ. Et donc ce qui veut dire que sur un même rameau, de caféier, ça ressemble à ça, un rameau de caféier. Je vais avoir des fleurs, je vais avoir des cerises vertes, je vais avoir des cerises jaunes, je vais avoir des cerises rouges et des cerises violettes. Alors, les fleurs, bon, on n'en parle pas, ça, on ne les consomme pas. Les cerises jaunes, elles ne sont pas mûres, donc elles ont un taux de sucre qui n'est pas suffisant, donc elles vont être... sans aucun goût, sans aucun arôme. Les cerises rouges, elles, c'est celles qui nous intéressent. Elles sont suffisamment mûres, donc elles auront du goût après torréfaction. Et alors celles-là, elles sont horribles. C'est les cerises violettes. Elles sont surmatures. Elles sont trop mûres. Et elles sentent le moisi, le fermenté, le pourri, quoi. Alors évidemment, si moi je suis un planteur et que je vais chercher à faire ma cueillette, je sais comment je fais. Je fais à la main. À la main. Je ne l'ai pas dit parce que. Mais c'est 50 millions de personnes dans les. 50 millions de petits planteurs, sans parler des salariés, qui travaillent dans les pays producteurs. Les gens impliqués dans la filière, c'est plus de 100 millions de personnes. Donc, c'est beaucoup de monde. Et ces gens-là, ils vont cueillir à la main, une par une, les cerises rouges, et ils vont laisser les vertes. 15 jours après, quand les cerises vertes auront mûri, ils repassent, et les cerises rouges, ils les recueillent. Et ils repassent plusieurs fois, il y a 4 ou 5 passages successifs sur les rameaux. Alors évidemment, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu pénible et puis que ça coûte cher, tout ça. Ça prend du temps. Puis il faut payer des gens. Alors dans ces plantations que vous voyez là, ça c'est une plantation au Brésil, on a du mécanique. Alors des gros enjambeurs qui passent. Alors ça arrache un peu tout, hein, mais après on trie. Et effectivement, on a des récoltes qui sont, on voit arriver des récoltes qui sont multicolores. Il y a du vert, du jaune, du rouge, du violet, il y a un peu de tout dedans. Alors le principe, c'est que ces gens-là vous disent, mais de toute façon, après, on trie. C'est-à-dire que le vert part sur des marchés pas très intéressants. Le violet, ils vous disent qu'ils le jettent. En fait, ils ne le jettent pas vraiment. Et voilà, ils sont censés garder que le rouge. Alors après, il y a des cueillettes, il y a des techniques alternatives qu'on appelle le stripping. Alors le stripping, c'est je prends quand même à la main et je tire. C'est ce geste-là qui s'appelle stripping, ou des peignes mécaniques, voilà, qui sont des petites dents qui secouent l'arbre et qui sont censées récupérer les cerises. Voilà. Donc là, entre ceci et entre cette méthode-là et celle-ci, il y a une différence énorme de prix, mais il y a une différence énorme de qualité aussi, vous imaginez bien. Voilà la plantation dont je parlais, qui est en plein soleil, plantation plutôt industrielle. Alors après, une fois qu'on a récolté les cerises, il va falloir récupérer la petite graine à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traitements après récolte, c'est ce qu'on appelle l'extraction de la graine. Alors là, il y a deux méthodes pour aller vite. Donc la méthode qui est qualitative, qui est plutôt recherchée a priori par les amateurs de café de qualité, c'est la méthode humide. Alors on va séparer les cerises par flottaison. On va procéder à ce qu'on appelle le dépulpage. Alors là, on voit quelqu'un qui est en train de dépulper. C'est simple, on passe dans un petit appareil qui va briser un peu la cerise, le mucilage qui est autour de la graine, et qui va donc laisser la graine avec cette espèce de confiture autour. Donc ceci, on va le faire fermenter de manière à ce que les bactéries, il y a des bactéries qui attaquent le mucilage qui est autour de la graine et qui le rendent soluble dans l'eau. Ensuite, on va laver cette fermentation et on va obtenir du café en parche. Alors le café en parche, on va le faire sécher. Donc on voit que ça, c'est une méthode qui est un peu compliquée aussi. Et encore une fois, c'est une méthode qui est plus chère et qui est plus qui donne un résultat, par contre, très fin, très acidulé et plus aromatique. Par contre, si c'est mal conduit, on risque d'avoir une surfermentation et donc un goût un peu de moisi, de pourri. Alors, il y a les cafés surfermentés, personne ne vous dira qu'il le vend. Hein. C'est un accident de. Le café surfermenté, c'est un accident de préparation. C'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Malheureusement, il arrive que pour une raison ou pour une autre, la fermentation soit mal contrôlée et que ça arrive. Alors, généralement, ces cafés. Ça fait partie des cafés défectueux, on le verra très rapidement par la suite, des cafés avec des défauts. Et ces cafés ça fait partie des défauts. Ces cafés avec des défauts, en général, donnent lieu à des recyclages recyclés. C'est-à-dire que ça peut être, si c'est vraiment, vraiment horrible, ça passe dans les cafés lyophilisés. Si c'est un petit peu moins bien, ça passe dans les cafés très bas de gamme. Enfin, si un petit peu mieux, pardon, ça passe dans les cafés très bas de gamme. Et sinon, ça passe un peu dans les gros mélanges industriels. Il y en a qui passent un petit peu. Ça. Voilà. Sinon, après, ce qui est vraiment, quand c'est vraiment, c'est en général, malheureusement, ils le gardent pour la consommation nationale. C'est-à-dire que c'est les cafés qui gardent pour le marché local, dans les pays producteurs. Voilà, donc... Là, alors on ne voit pas bien sur l'écran. La façon la plus industriellement répandue de traiter le café, c'est ce qu'on appelle la transformation par voie sèche. Donc là, c'est beaucoup moins qualitatif parce que souvent, on a quelque chose qui est assez mal fait, qui prend un goût terreux. Alors, il y a des choses intéressantes qui se font. Il y a certains crus très intéressants. Qui sont en café dit naturel. Alors, c'est des cafés traités par cette voie-là, par séchage. Mais on va dire que généralement, c'est quand même pas un signe de qualité. Ça donne des cafés qui sont plus durs à la dégustation et surtout un risque de goût étranger, un risque de goût terreux. Alors, tous ces éléments-là, à chaque fois, il y a pour revenir à notre notion de terroir et de cru, il va y avoir des façons différentes de conduire ces traitements. Il va y avoir des façons différentes de le faire. Chaque région géographique va avoir déjà son climat, son type d'eau. Et là, encore une fois, on va rajouter encore une typicité aux crus. C'est-à-dire que vous avez parfois des crus qui sont plus fermentés que d'autres, qui vont avoir des profils aromatiques différents. Et ça, ça va aussi influer sur, le goût final du café. Alors, on va passer très vite sur les défauts, parce qu'on n'aime pas trop en parler, mais il faut savoir que dans tous les cafés, même dans les fermes de plus grande, de la plus grande renommée, il arrive qu'il y ait des défauts dans les cafés, et ces défauts doivent être triés. Les cerises vertes séchées sur l'arbre, on en a parlé, les cerises surfermentées. Il y en a aussi d'autres, et ces défauts-là vont être... Vous avez un triage qui va être fait pour éliminer les cafés défectueux. Alors, les défauts, vous les avez là. Vous avez des fèves qui ont été mangées par un petit ver. Vous avez des fèves qui sont immatures. Vous avez ce qu'on appelle des grains noirs. Alors, les grains noirs, c'est des grains fermentés. Voilà, vous avez différents types de défauts. Et à chaque triage va être plus ou moins précis, évidemment. Donc, on revient alors sur notre notion de terroir. Alors, on a vu que nos terroirs, ça allait être l'espèce, la variété, l'altitude, le sol. On va pas refaire là. Tout ça, ça va nous donner un cru. Donc c'est pour ça que dans votre boutique, chez votre torréfacteur, dans votre boutique de café spécialisée, vous allez trouver, il va vous vendre tel café de telle plantation, voire même tel micro-lot. Vous avez des monovariétés, c'est-à-dire qu'on va vous vendre un bourbon yellow de la plantation de la finca Intel au Brésil. Vous allez avoir un geisha de telle ferme. Geisha, c'est une variété botanique de telle ferme du Panama. On va même vous dire, votre torréfacteur, votre boutique va vous dire, celui-là, il a poussé à exactement 1800 mètres d'altitude sur un versant exposé sud-sud-ouest, et donc il va avoir telle caractéristique aromatique, il va être acidulé, il va être plutôt corsé, il va être doux, il va être long en bouche. Tout ça, c'est dû au terroir, c'est-à-dire que ça viendra de la manière dont il a poussé et dont il a été traité. Mais évidemment, après, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, on est toujours au stade du café vert. Ce sur quoi on ne reviendra pas aujourd'hui, parce qu'il est déjà 8h05, c'est qu'après, il va falloir l'interpréter, ce cru de café vert. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le produit et notre produit de terroir, eh bien, il va falloir l'interpréter. Ça, c'est pour l'instant, on va pouvoir en tirer des choses très bien comme des choses horribles. Il va falloir le torréfier. Alors ça, selon qu'on le torréfie fort, doux, qu'on le torréfie longtemps, qu'on le torréfie vite, on va avoir des résultats vraiment différents. Évidemment, il y a l'emballage et la conservation. Alors, on parlait de petites boutiques de torréfaction, on parlait de petits... quand on peut, c'est quand même l'idéal. Le café, le principe de base du café, c'est que c'est un produit frais. C'est un produit frais quand il est vert, c'est un produit frais quand il est torréfié, c'est un produit frais quand il est en grain, et encore plus sensible quand il est moulu. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête, que le torréfacteur, mais aussi le client et l'utilisateur final, doit avoir en tête qu'un café, ça se garde le moins longtemps possible. Qu'il soit vert, torréfié, moulu, ça ne se garde pas. Plus on le consomme tôt, meilleur il sera. Mais bon, il y a quand même des méthodes pour le conserver qui sont le sous-vide. Et bon, c'est forcément une méthode, c'est un moindre mal, on va dire. Et puis alors, on arrive avec mon café qui a été bien conservé, bien torréfié, un cru d'exception, il va falloir le préparer. Alors là, la préparation, c'est pareil, c'est quelque chose qui a évolué énormément, mais alors énormément, depuis quelques années. Alors, je ne vais pas vous refaire l'historique en grand, mais globalement, dans les années 50-60, le café, on le prépare avec une cafetière électrique, ou avec une cafetière moka. Ça, c'était la base. Puis dans les années 80-90, sont apparus les marchands de machines à expresso. Et alors là, si chez soi, si on voulait être, si on voulait épater ses amis, fallait avoir une machine à expresso. Et alors à partir de ce moment-là, un café, c'était forcément un expresso. Sinon, c'était la vieille café-filtre de la grand-mère et c'était pas bon. Alors ça a été la mode, voilà, il fallait absolument de l'expresso et ça a été le tout expresso pendant 20 ans. Et c'est pas mal l'expresso, c'est très bien. Mais simplement, on est en train de découvrir maintenant que c'est pas la seule méthode pour faire du café. Alors ça, je disais tout à l'heure rapidement, ces méthodes de préparation-là, ces nouvelles méthodes de préparation qui y arrivent, ces réinterprétations de méthodes ancestrales, enfin anciennes, elles ont plus de 100 ans pour certaines, elles ne sont pas arrivées en génération spontanée. Hein. Elles nous viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement mondial de consommation du café qui a été, il faut dire ce qui est, un peu lancé par les anglo-saxons qui ont relancé la consommation de café sous de nouvelles formes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez dans le monde entier, vous allez aux États-Unis, vous allez en Angleterre, vous allez en Asie, vous allez au Japon, vous allez en Allemagne, vous allez en Europe de l'Est, et ben vous voyez des nouvelles tendances de consommation du café. Ces nouvelles tendances-là, vous voyez qu'elles s'étendent partout. Et étonnamment, la France était un petit peu le dernier bastion un petit peu résistant. Et c'est en train de changer. Donc là, les méthodes de préparation qu'on est en train de redécouvrir, c'est des méthodes dites des méthodes douces. Mais on va quand même parler d'abord de l'expresso. Alors, l'expresso, très rapidement, parce que je vois que j'ai été un peu long. L'expresso, c'est typique, enfin, sa définition officielle, c'est une boisson obtenue suite au passage d'eau chaude sous pression à travers du café moulu et compacté dans une durée limitée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres de l'expresso. 92 degrés, température, 9 bars sur la mouture, une mouture fine, une quantité de café de 7 à 9 grammes et qui doit être obligatoirement compactée. Voilà. Alors cet expresso-là, on voit que ça va donner une... Bah, vous connaissez tous le goût typique de l'expresso. Ça va donner quelque chose d'assez fort, d'assez corsé, d'assez, avec une extraction assez importante. Et ils doivent couler entre 20 et 30 secondes. Alors là, on est en train de redécouvrir le café-filtre. Alors, le café-filtre, c'est de la percolation. C'est-à-dire qu'on passe de l'eau chaude, donc entre 85 et 92 degrés. La quantité de café, c'est autour de 60 grammes par litre. Et la mouture est moyenne. Alors, ce que vous voyez là, vous l'avez peut-être déjà vu pour certains, vous l'avez peut-être jamais vu pour d'autres, ce sont des méthodes nouvelles de faire du café filtre. Donc, le principe de base, c'est de revenir un petit peu aux méthodes ancestrales, mais en les contrôlant beaucoup mieux. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on va avoir, avec ces méthodes-là, une extraction idéale de la mouture, avec une température contrôlée, un dosage contrôlé, et surtout un mélange entre l'eau et le café qui va être très contrôlé. Alors la cafetière à piston, celle-là, on ne l'avait jamais vraiment oubliée, elle a toujours été utilisée. C'est une bonne méthode. Il y a beaucoup de gens qui disent que cette méthode n'est pas excellente. Pour moi, c'est une excellente méthode. Pourquoi ? Parce qu'elle respecte vraiment le goût originel du produit. C'est-à-dire que c'est une préparation par décoction et c'est pas du tout désagréable. Pour ceux qui feront les ateliers, vous allez en déguster après. Le gros avantage, c'est, comme je disais, vous avez le produit brut et débarrassé de la plupart de son marc. L'inconvénient, ce qui gêne un peu les gens, c'est qu'on en a un petit peu dans la bouche. Mais bon. Si on a une mouture grosse, et si on va dans sa boutique de torréfaction, eh ben on aura une mouture grosse, c'est-à-dire on aura une mouture adaptée à cette machine, enfin à ce mode de préparation, eh ben il n'y aura pas de problème. On aura une tasse plus corsée qu'avec le filtre. Et puis alors, ça c'est pareil, c'est une méthode qui combine décoction et filtration, cette méthode-là, tout le monde la connaît, puisque même certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisée il y a des années. C'est une méthode qui est remise au goût du jour aussi, alors qui donne un résultat qui est plus proche du café filtre, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose de doux, qui va vraiment respecter le goût du café aussi, puisque le principal intérêt de tous ces nouveaux appareils que vous voyez là en photo, c'est que vous n'avez aucune distorsion du goût. C'est-à-dire que dans ma cafetière électrique ancienne, j'avais des tuyaux qui s'entartraient, j'avais des bactéries qui se mettaient dans le tartre, ça surchauffait parfois, donc la température n'était pas contrôlée, et on avait des goûts parasites énormes. Alors que là, avec toutes ces méthodes-là, la température elle est parfaitement contrôlée. Là, vous pouvez mesurer, vous pouvez en faire 100, vous aurez toujours le même degré de température au-dessus. Et puis, vous aurez aucun goût parasite. Et cette méthode-là, que vous avez peut-être croisée aussi à l'occasion, c'est la filtration à froid. Alors là, le principe, c'est que on prépare du café à base d'eau froide. C'est-à-dire qu'on fait goutte à goutte tomber du café sur la mouture, et ça va traverser très lentement la mouture pour, au final, au bout de 3 à 4 heures, avoir quelque chose de très, très doux. C'est une manière absolument non amère de gommer l'amertume et l'acidité du café. Alors, l'intérêt, c'est quelle méthode pour quel usage ? Alors, il y a une notion de praticité. La cafetière siphon dont on a parlé là, entre le temps de préparation, le temps de chauffe, le temps de nettoyage, si je fais ça le matin à 7 heures, je ne suis pas au boulot avant 10h30. Par contre, l'après-midi, si j'ai des amis, un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, ou si je veux me faire plaisir tout seul, ça fait un petit cérémonial et j'aurai un goût particulier. L'expresso, c'est très bien après un repas. Quand on a le palais complètement saturé, et ben prendre un petit expresso, ça va nous regonfler le palais, on va avoir l'impression d'avoir de la force, ça va nous réveiller les papilles. C'est très bien. Mais alors moi, un expresso, quand je me lève, je ne peux pas en boire. Le café filtre, c'est pareil. Le matin, quand on est encore dans la douceur, un bon café filtre, on va l'apprécier. On va trouver que c'est doux, que ça passe très bien. En plus, accessoirement, ça va être plus chargé en caféine. Voilà. Alors après, on a passé sur certaines méthodes qui sont aujourd'hui moins répandues, comme là, vous avez par exemple l'aéropress, qui est une manière un peu hybride entre un café filtre et un expresso. Mais l'avantage, c'est qu'on va aujourd'hui, les utilisateurs marient les usages. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois les nouvelles méthodes de consommation du café. C'est que vous aurez à la fois chez vous une machine à expresso pour après le repas, une café filtre pour le midi, et puis un siphon pour quand vous avez le temps, par exemple. Et ça, l'intérêt, c'est que vous allez le marier avec les crus. C'est-à-dire que mon cru de café, s'il est très acide, alors il y en a qui aiment, mais si j'ai un café très acide, que je le prépare en expresso, je vais avoir une acidité qui peut choquer, qui peut être parfois un petit peu désagréable. Si j'ai un cru qui est très corsé, animal, sauvage, et que je le prépare en filtration, ça risque d'être un petit peu désagréable aussi. Donc le jeu, ça va être en fonction des typicités de chaque cru, on va l'adapter à un moment de la journée et on va l'adapter à une méthode de préparation. C'est-à-dire que si on veut aller plus loin, et ça, sur les conseils, il y a des professionnels qui peuvent vous conseiller sur les crus, sur leurs utilisations. Mais l'intérêt et l'avantage et l'avenir du café, c'est qu'on ne va plus boire un café que je sors d'un paquet noir parce que j'ai vu un couple qui dansait à la télé sur fond de musique sensuelle. Mais je vais dire, voilà, mon professionnel, il m'a conseillé tel produit de telle ferme. Il m'a conseillé de le consommer en expresso. Et moi, je sais que mon expresso, je l'aime bien après le repas. Et voilà. Et de la même manière, on aura De la même manière, un café qu'on va me conseiller, qui va être un très bon café, un cru d'exception, très bien préparé, mais moi, il ne va pas me plaire. Pourquoi il ne me plaira pas ? Parce que j'ai appris à comprendre ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, les goûts que j'aime, les goûts que je n'aime pas, et à jouer avec en fonction des moments de la journée et des méthodes de préparation. Ça, je pense que c'est une manière de traiter le café comme un véritable produit de la gastronomie, c'est-à-dire un produit de qualité, un produit qui est complexe, qui mérite qu'on s'y intéresse, qui mérite qu'on s'y attarde, mais qui finalement est là pour nous faire plaisir et nous donner du plaisir et de la joie. Voilà, donc c'est la fin. Si vous avez des questions particulières, je suis à votre disposition pour y répondre. On ne va pas pouvoir être très long parce que l'atelier commence maintenant. Je vous écoute.
Merci pour l'exposé qui était très clair. Il y a une publicité qui parle des cafés précieux des brûleries du Havre. Il y a deux familles. Bon, je ne les citerai pas parce que je suppose qu'on ne peut pas le citer. Qu'est-ce que ça vaut, ces cafés précieux ? Donc, ça fait partie...
Alors, je vous avoue que je ne connais pas ces cafés précieux.
Ah bon, je vous le dirai au moment de la télé.
Alors là, je vous avoue que je ne pourrais pas vous... Vous renseignez dessus.
Pouvez-vous nous dire un mot sur les décaféinés, s'il vous plaît ?
Sur les décaféinés, oui. C'est vrai que le sujet est tellement vaste. Oui. Simplement, retenez deux méthodes de décaféination. L'une avec la méthode traditionnelle, qui est avec solvant. Alors, sur le paquet, vous le voyez, parce qu'il n'y a rien d'écrit. S'il n'y a rien d'écrit, en général, c'est que c'est décaféiné avec solvant. Et puis, vous avez la méthode des cafés décaféinés à l'eau, donc qui est une méthode, encore une fois, plus longue, plus coûteuse, mais qui respecte beaucoup plus la qualité du produit et puis qui a l'avantage de ne pas utiliser de solvants chlorogénés qui sont pas des produits très sympathiques. En général, quand c'est décaféiné à l'eau, c'est marqué sur le paquet. Quand il n'y a rien marqué, c'est que c'est décaféiné au solvant. Voilà. Non, vous avez énormément de composés dedans. Il y a des protéines, il y a des alcaloïdes, il y a des sucres, il y a des vitamines. Non, elles résistent pas à la torréfaction.
Et le coût de la caféine. Oui, merci. La publicité qui vante la caféine contre la cellulite, donc ça viendrait de cette notion que le café a besoin de beaucoup d'eau, c'est ça ?
Alors, ça fait partie des vertus de la caféine, alors qu'il y en a beaucoup. Hein. Ça fait partie des vertus de la caféine qu'on a vraiment beaucoup. Il y a des antioxydants. Enfin, il y a des antioxydants dans le café. La caféine a pas mal de vertus. Effectivement, en crème. Alors moi, je n'ai jamais testé pour voir si ça marche. Hein. Mais effectivement, ça fait partie des vertus de la caféine. Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je vous remercie pour votre exposé. Vous n'avez pas parlé des cafetières italiennes. Je me demandais si ça ne se rapprochait pas des cafetières à siphon.
Alors, il y a une grosse différence entre cafetière italienne et cafetière à siphon. Dans le fonctionnement, ce qu'on reproche aux cafetières italiennes, alors, les cafetières italiennes, en général, n'ont pas très bonne presse chez les amateurs de café. Ce qu'on leur reproche, c'est le passage de vapeur d'eau à travers de la mouture, puisque la grosse différence par rapport à une cafetière siphon, c'est que dans une cafetière siphon, vous avez l'eau qui va monter, qui va rester à température environ de 92 degrés, 93 degrés en haut. Et quand ça redescend, il n'y a plus la source de chaleur. Donc ça ne brûle pas la préparation. Le café ne dépasse jamais les 95 degrés. Dans les cafetières italiennes, ce qui passe à la fin, c'est de la vapeur d'eau. La vapeur, ça fait 100 degrés et ça donne un goût très âcre, amer au café. La deuxième chose qu'on lui reproche, c'est que vous avez un petit joint de caoutchouc qui est en contact direct avec la partie qui chauffe. Donc il y a souvent un goût de caoutchouc si on l'oublie 10 secondes de trop sur le feu, ce qui arrive souvent, enfin, moi ça m'arrive. Donc on va avoir ce goût de caoutchouc et d'une manière générale une amertume. En plus, bon, en général, enfin, maintenant il y en a en inox, mais donc c'est pour ça qu'elles n'ont en général pas très bonne presse. Cela dit, c'est pas si mal. Mais la grosse différence, c'est que le café ne redescend pas.
Merci. Dernière petite question. J'ai un collègue qui m'a encore parlé récemment du Kopi Luwak.
Oui.
Est-ce que c'est un café qui mérite sa renommée ou est-ce que c'est simplement une légende ?
Alors, le cas du Kopi Luwak, c'est un petit peu... Alors, le principe, c'est que ce café qui a été digéré donc, par la civette qui s'appelle le Luwak, prend sa composition chimique est modifié d'une telle manière que ça va lui donner une typicité aromatique dite intéressante. Après, c'est une question de goût. Voilà. Est-ce que ça vaut ? Après, comme tout, pour tous les produits de luxe, ce qui fait son prix, c'est d'abord sa rareté. C'est ensuite son élaboration qui effectivement est beaucoup plus chère que les méthodes qu'on a vues là. Le prix fait qu'il y a un phénomène d'intérêt. En plus, il y a une histoire à raconter. Donc, je pense que le succès du Kopi Luwak est plus dû à ces éléments-là qui sont amusants à raconter. Enfin, voilà, disons, si vous recevez des amis à dîner, vous leur expliquez que leur café qu'ils ont bu, il vient des excréments d'un petit renard d'Indonésie. Voilà, vous aurez une histoire marrante à raconter. Après, le goût est pas forcément, c'est pas forcément très justifié, quoi.
Vous aviez une question ?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Le café est-il bien considéré comme une drogue autant que le tabac et tout le reste ? Selon vous, personnellement, et puis selon l'opinion admise par tout le monde, au moins.
Ça, c'est pas selon moi. Alors ça, il y a une réalité là-dessus. Il y a une réalité, c'est-à-dire que il y a effectivement une dépendance à la caféine. Ça existe. Cela dit, c'est pas répertorié comme drogue parce que cette dépendance est très légère et on a une dépendance à la caféine. Les effets du sevrage. Donc, si on arrête la caféine demain, si je suis dépendant à la caféine et que j'arrête la caféine demain, je vais pas être en manque, je vais pas trembler, je vais pas aller dévaliser le supermarché pour avoir ma dose. Non, simplement, ce que ça fait, c'est que quand on arrête, on est un peu plus fatigué que d'habitude. Pendant 48 à 72 heures, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, vous êtes sevré. Donc oui, il y a une dépendance à la caféine, mais elle n'est pas grave au point de justifier qu'elle soit classifiée dans les drogues. En plus de ça, c'est vrai que c'est une dépendance qui est très, très légère. Mais ça existe, on ne peut pas nier que ça existe.
J'ai une voix qui porte.
Bonsoir. J'ai vu que dans la liste des producteurs, il n'y avait pas. Bon, forcément, il n'y avait pas l'Italie, mais alors qu'est-ce qui fait que le café italien a cette telle renommée ?
Ah, parce que les
Italiens. Naples, etc. Mais est-ce qu'ils ont une manière de le fabriquer, de le torréfier ?
Les Italiens, ils ont inventé la machine expresso. Donc, ils ont inventé, popularisé. Aujourd'hui, c'est les premiers producteurs mondiaux de machines à expresso, si je ne dis pas le. Donc, c'est eux qui ont inventé cette méthode de préparation, ou en tout cas, qui l'ont perfectionnée à un point. Donc, ils sont. Ils ne sont pas producteurs, déjà, parce que forcément, ils n'ont pas le climat pour. Et c'est vrai que c'est eux qui ont popularisé l'expresso, mais aussi toutes les boissons dérivées, le cappuccino, le latte macchiato. Donc, le terme barista, c'est un terme italien à la base. Donc, ils sont à l'origine de beaucoup de choses dans le monde du café. Après, on peut dire qu'ils travaillent très bien les cafés. Ils savent très bien préparer les cafés. Ils les préparent d'une certaine manière. Donc, chez eux, c'est préparé très court. Ils le consomment avec du sucre, beaucoup. Donc, en proportion café-sucre, c'est très élevé. Donc, ils ont une manière de les préparer qui est adaptée à cette consommation. C'est la raison pour laquelle ils consomment pas forcément des cafés de très grande qualité. C'est-à-dire, c'est pas des importateurs de cafés vraiment très haut de gamme et de grand luxe. Par contre, c'est vrai qu'ils ont une très bonne maîtrise de la préparation. Là, à ce sujet-là, la réputation n'est pas usurpée.
On va laisser passer une dernière question.
Oui.
Vous avez beaucoup comparé le café au vin. Ouais. C'est vrai que dans le domaine du vin, de l'œnologie, on parle d'accord mais vin. Qui vont alors donc le vin qui vient sublimer le goût de tel ou tel plat. Est-ce que avec le café, on pourrait imaginer des accords café plat ou café dessert ou des choses comme ça?
Alors absolument. Vous avez là, je remarque que la bibliothèque a un fond très documenté parce que vous avez ici un livre qui s'appelle Café accord gourmand. On a participé avec le chef du Crillon à l'époque. À ça, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se faire. Alors la première association qu'on fait, c'est café dessert en général. C'est vrai que généralement on conseille des crus plutôt acidulés avec des desserts aux agrumes, des crus charpentés, corsés, avec des desserts chocolatés par exemple. Donc ça souvent, le dessert étant ce que les gens ont en bouche en dernier lieu, il y a des accords qui vont très bien, qui semblent évidents. Après, on est allé un petit peu plus loin avec Dominique Boucher, c'est-à-dire qu'on est allé chercher un repas entier au café, c'est-à-dire avec des plats de la cuisine au café associés avec des crus de café. C'était une démarche qui allait très loin. Le livre a peut-être pas loin de 7-8 ans, hein, donc c'était il y a très très longtemps. C'était une démarche qui allait très loin. C'était peut-être un peu avant-gardiste parce qu'on n'a jamais réussi à populariser le concept du repas entier au café avec plusieurs crus servis en accord avec les plats. Mais il y a des choses, il y a des travaux très intéressants à faire entre café et gastronomie. Il y a des recettes avec du café qui sont très intéressantes d'ailleurs. Je vous invite à le... Voilà.
Je crois qu'on va arrêter là.
Très bien. Bon, ben, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous.
Alors, je voudrais remercier Benoît Michéa qui vous offre donc une petite carte qui vous permet d'aller dans les boutiques des cafés Malango pour déguster un café et un journal qui vous donnera des explications sur le café.